Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado d'options consommateurs qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spire et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, l'épisode se déroulera comme à l'habitude en deux temps, donc avec une chronique et un sujet principal. On débute avec la chronique. Je suis accompagnée de Sarah-Ève Levac, avocate chez Options Consommateurs. Allô Sarah-Ève?
Bonjour Marianne.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la rétrofacturation. Là, si je comprends bien, c'est un peu une mise en bouche pour notre sujet de plus tard.
Oui, aujourd'hui, on va parler d'achat en ligne. Donc, j'ai pensé vous parler de l'ABC de la rétrofacturation, donc une introduction à vos droits lors d'achat en ligne.
Oui, bien en fait, moi, la rétrofacturation, je ne sais pas c'est quoi. Le terme, là, peut-être tu vas me l'expliquer, puis je vais faire « Ah oui, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais… »
Oui, donc la rétrofacturation, c'est peut-être une étrange créature, là, mais c'est vraiment efficace, puis bien de l'apprivoiser, d'apprendre à l'utiliser. En fait, au Québec, la loi nous donne des droits en tant que consommateurs hein, quand nos achats en ligne tournent au vinaigre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, la loi va prévoir qu'on va pouvoir annuler nos achats qu'on a fait en ligne et se faire rembourser directement par le commerçant. Et si ça ne fonctionne pas, si le commerçant ne nous rembourse pas, bien on peut se retourner vers notre émetteur de carte de crédit pour être remboursé. C'est ça qu'on appelle la rétrofacturation.
OK. Puis est-ce qu'il faut absolument avoir essayé avec le, ben pas le fournisseur, là, mais le commerçant avant d'utiliser la rétrofacturation ou on pourrait tout de suite se dire comme « Ah, ça a l'air d'un site compliqué, moi je vais juste tout de suite appeler Mastercard ».
C'est ça. La loi prévoit qu'il y a des conditions pour demander une rétrofacturation et oui, il faut habituellement demander au commerçant avant d'annuler notre achat, avant de pouvoir se retourner vers notre émetteur de carte de crédit.
OK. Parfait. Fait que parle-moi de ces conditions-là, lesquelles qu'on doit… auquel on doit correspondre pour demander la rétrofacturation.
Donc, j'ai pensé parler de deux cas typiques, là, où on a un droit à la rétrofacturation. Premièrement, le cas où on se retrouve les mains vides. Donc, on a commandé quelque chose en ligne, soit on n'a pas reçu le colis, soit il a été volé à notre porte où on nous dit que ça a été livré puis ça a été volé, soit qu'il y a des délais de livraison, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas reçu notre colis. Hein, ce qu'il faut savoir dans tous ces cas-là, quand on commande un bien d'un commerçant, il y a l'obligation de nous le livrer. Et si jamais on n'a pas reçu le bien, bien on a des droits qui sont prévus par la loi. Ce que la loi prévoit, c'est qu'après 30 jours après l'achat ou 30 jours après la date de livraison qui est prévue à notre contrat, là, comme par exemple le courriel qu'on reçoit après avoir l'achat, on a le droit d'annuler notre achat et de demander le remboursement.
OK. Fait qu'après 30 jours.
Oui, c'est ça. L'exception à ce que je dis en ce moment, c'est si on a demandé expressément au commerçant de livrer le bien chez nous et de le laisser à notre porte, même si on était absent et que là, il y a un vol, on pourrait être responsable. Mais normalement, là, même si le bien est volé à notre porte, que le commerçant l'a simplement laissé là, bien, on peut quand même demander l'annulation et le remboursement.
OK. Puis comment on fait ça?
Comment on fait ça? Bien, premièrement, on va communiquer avec le commerçant. Hein, on va lui donner l'opportunité de nous rembourser. On va l'avertir qu'on veut annuler notre achat. La loi ne prévoit pas un moyen précis de le faire. Donc, ça peut être fait par écrit ou au téléphone, par exemple. Il faut simplement garder en tête qu'au téléphone, ça peut être plus difficile de démontrer qu'on a fait l'annulation par la suite pour les étapes suivantes. Mais ça peut être fait par écrit ou ça peut être fait au téléphone.
OK. Puis par écrit, là, tu as un petit courriel, y a-tu comme des informations vraiment importantes à avoir dedans? Le numéro de la commande, j'imagine?
Bien, la loi ne prévoit pas exactement
ce qu'on doit... Est-ce qu'on cite la loi dans notre courriel?
Bien, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire non plus. Là. C'est sûr que la loi ne prévoit pas les informations qu'il faut mettre dans l'information au commerçant, mais pour faciliter les choses, là, effectivement, probablement votre numéro de commande, ce que vous avez acheté quand vous l'avez acheté pour faciliter les choses.
Okay.
Donc, on avertit le commerçant qu'on annule. Et après ça, le commerçant, il a 15 jours pour nous rembourser. Donc, on doit attendre un 15 jours pour donner l'opportunité au commerçant de nous rembourser. Si on n'a pas de réponse ou s'il refuse, après ces 15 jours-là, on peut se retourner vers notre émetteur de carte de crédit. Donc, demander la rétrofacturation. Et il faut faire ça dans les 60 jours par la suite. Donc, après les 15 jours, on a 60 jours pour se retourner vers l'émetteur de carte de crédit. Donc, il faut quand même agir assez rapidement.
Ouais.
Et dans ces cas-là, là, tu viens de parler de ce qu'il faut dire aux commerçants. Mm-hmm. Dans le cas de l'émetteur de carte de crédit, bien, la loi prévoit ce qu'on doit dire, en fond, dans le fond, à l'émetteur de carte de crédit. C'est oui, bon. C'est ça. Il faut que ça soit par écrit. Et là, il faut donner certaines informations comme notre nom, le nom du titulaire de la carte, le numéro de la carte, ce qu'on a payé, là, la somme de l'achat, la date de l'achat, la description de ce qu'on a acheté. Et aussi les raisons pour lesquelles on demande la rétrofacturation et qu'on a annulé l'achat. Donc ça, c'est prévu par la loi.
Parfait. Fait que les délais à retenir pour cette première mise en situation, c'est 15 jours, 30 jours, oui. 15 jours, 60 jours.
Oui, donc 30, 15, 60, quand je me retrouve les mains vides, 30, 15, 60 pour faire l'annulation et pour demander le remboursement. Parfait. Et la rétrofacturation.
Quand je me retrouve les mains vides. Oui. Puis la deuxième situation, j'imagine, c'est si on reçoit comme pas le bon produit.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est si je reçois un bien qui est non conforme. Donc, ce que je reçois, c'est pas ce que j'ai commandé. Hein, je commande des souliers de course, là. Puis finalement, je reçois des plateformes ou des souliers à talons hauts. C'est pas ce que j'ai commandé. Là aussi, j'ai des droits et je peux demander l'annulation et le remboursement quand je reçois pas le bon bien.
OK.
Ça s'applique pas à une situation où j'ai commandé des souliers de course. Puis quand je les reçois, finalement, je les trouve moins à mon goût que sur le site web. Bien, ça, c'est si moi, je change d'idée puis ça me plaît plus, là, il faut que je regarde la politique d'échange et remboursement du commerçant, s'il en a une. Mais si c'est pas la bonne chose, je peux annuler et me faire rembourser. Là encore, il y a des délais, donc 7 jours. 7 jours après avoir reçu le bien, il faut que j'aie communiqué avec le commerçant pour annuler. Et après ça, on suit le même principe, donc le commerçant a 15 jours pour me rembourser, puis après ça, je me retourne vers mon émetteur de carte de crédit dans les 60 jours pour me faire rembourser.
OK, fait que c'est les délais à retenir dans cette situation-là, c'est 7, 15, 60.
Exact.
Parfait. Moi, je pense que ça fait le tour. Je vais sauter au prochain sujet. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas eu l'occasion?
Non, ça va. Si les gens ont des questions, s'ils ont d'autres cas de figure, ils peuvent toujours nous contacter. On a un service d'information juridique. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions des gens.
Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup, Sarah-Ève.
Merci.
Donc, on continue l'épisode d'aujourd'hui, mais cette fois-ci avec Clarisse Henka, avocate et analyste chez Option Consommateur. Allô, Clarisse.
Bonjour, Marianne.
Alors, tu veux nous parler de la nouvelle formule « Acheter maintenant, payer plus tard ». Pourquoi la nouvelle formule?
Ben simplement parce que, Marianne, c'est une formule que l'on connaît déjà. Okay. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on se rendait dans un magasin de grande surface pour acheter des biens de grande valeur, par exemple, une cuisinière. Donc là, au moment d'achat, qu'est-ce qui se passait? Le marchand nous proposait de financer notre achat à l'aide d'un financement. Et le marchand faisait souvent, collaborait souvent avec une institution financière, soit une banque ou une caisse.
OK. Alors, puis c'est « acheter maintenant, payer plus tard ». Je pense qu'il y a un acronyme aussi anglophone qu'on utilise beaucoup, c'est « buy now, pay later ».
Oui, BNPL.
Okay. Fait que si au courant là, de l'épisode, on nous entend dire BNPL, c'est pour dire acheter maintenant, payer plus tard.
En effet.
Parfait. Donc, ouais, c'était comme ça qui fonctionnait avant, puis là, il y a du nouveau.
Oui, c'est ça. C'est parce que, bon, là, c'était souvent pour des gros achats. Bon, maintenant, ce qu'on réalise, c'est que, ben, on peut financer, dans le fond, l'achat du maquillage, des achats de moins de 50 $, par exemple, ça se fait. L'autre chose, c'est qu'on a des nouveaux joueurs. Donc, avant, ce qu'on voyait, c'était soit des banques, soit des compagnies de financement ou alors des caisses. Là, actuellement, on a des nouveaux joueurs qui sont des fintechs. Je sais pas, tu sais, des fois, quand vous défilez sur Internet, vous voyez là certaines compagnies comme Klarna, par exemple, Affirm, Sizzle, voilà. Mm-hmm. Alors, c'est de ça qu'on parle.
Puis, est-ce que c'est problématique que ce soit pas des banques, que ce soit pas des caisses?
Ben, en fait, je dirais pas ça comme ça. Par contre, ben, des questions se posent. Tu sais, quand au Canada, ce qu'il faut savoir au Québec, pour pouvoir accorder un prêt à un consommateur, il faut être détenteur d'un permis de l'Office de la protection du consommateur. Alors, l'enjeu ici, c'est que quand on a devant nous des compagnies qui arrivent, puis on ne sait pas comment les classer. À moins, si ce n'est pas des banques, c'est quand on est une banque, on n'a pas besoin d'un permis. Mmh. Mais quand on est une compagnie là, qui fait juste des prêts, ben, on a besoin d'avoir un permis de l'Office de la protection du consommateur. Alors, le problème, c'est que c'est une nouvelle compagnie, est-ce qu'elle a un permis ou pas? Okay. Puis, comment est-ce qu'on qualifie ce produit que cette compagnie-là est en train d'offrir. Est-ce un prêt? Est-ce un crédit? Donc, c'est aussi la manière dont ces compagnies-là présentent les produits qu'ils offrent aux consommateurs.
OK. Ouais. Fait que c'est ça que c'est pas nécessairement que c'est problématique, mais c'est qu'on le sait pas encore. C'est trop récent, puis vous, à vos yeux, chez Options Consommateurs, c'est quelque chose à surveiller pour les consommateurs parce que ça amène des nouveaux enjeux.
Ben ça, oui, ça apporte des nouveaux questionnements. C'est dans ce contexte-là qu'on a, tu sais, qu'on a aussi réalisé un projet de recherche sur le sujet. Mm-hmm. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est de soulever un peu des questions que cela pose. OK? Donc, on a des nouveaux joueurs, on a le produit. Est-ce que on peut dire que le financement qui est offert par ces compagnies-là peut être qualifié de crédit ou de prêt?
Est-ce que ça se retrouve au dossier de crédit?
Ben, c'est toutes ces questions-là qu'on essaie.
On part de loin.
Parce que dans un premier temps, il y a une question de confusion, OK? Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que la législation en matière de crédit au Canada vise vraiment à protéger le consommateur contre le surendettement, OK? Mm. Donc, tout est mis en place pour pouvoir le protéger, d'où tantôt j'ai parlé de l'obligation d'avoir un permis. Il y a certaines obligations qu'on retrouve dans la loi, par exemple, quand on accorde un crédit, un délai pour permettre au consommateur de changer d'idée, par exemple, un délai de 2 jours. Donc, c'est juste des exemples. Puis, il y a aussi des recours comme la rétrofacturation dont on vient de parler tantôt. Oui. On va y revenir. Okay. Alors, dans le cas actuel, c'est que c'est un peu difficile, dans le fond, de se situer. Quand on est sur la première page, par exemple, de certains sites Internet, ces compagnies-là, les produits sont présentés comme étant des prêts, ben, même pas comme des prêts, donc dans le fond, c'est du financement acheté à l'aide de sans frais, à l'aide de ce financement-là, sans frais, sans intérêt.
OK, donc ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a des nouveaux prêteurs. Il y a aussi le fait que c'est plus juste des gros achats qu'on propose de financer, c'est des petites choses comme un crayon à sourcils. C'est quoi les autres caractéristiques?
Ben, donc tantôt, j'ai parlé des nouveaux joueurs, donc on a des nouvelles fintechs. Comme Klarna, Fizzle. Mais on a aussi le fait que le paiement se fait par prélèvement automatique, soit sur la carte de crédit ou sur la carte débit. Donc, ça peut être facile, ça peut paraître que comme un mode de paiement, de paiement qui est facile pour le consommateur, mais tout ça, ça peut aussi avoir certaines conséquences aussi pour le consommateur, surtout le consommateur qui est vulnérable. Mmh. Donc là, on sait qu'au Québec, la législation en matière de crédit, elle est vraiment conçue pour pouvoir protéger le consommateur contre le surendettement. Mais des questions se posent. Bon, allons-y, parlons de l'endettement. Quand on parle d'endettement, on pense à quoi généralement? On pense aux frais, on pense au taux d'intérêt.
On pense au stress.
Ça vient avec ça, malheureusement, mais c'est ouais. Ça. Alors, mais quand on va sur le site Internet puis qu'on nous dit, ben, il n'y a pas de frais associés à ça, il n'y a pas de taux d'intérêt, mais que plus tard, quand on fouille un peu, on réalise qu'il y a peut-être des frais, OK? Que dans certains cas, pour certaines compagnies, il pourrait y avoir des taux d'intérêt qui vont de 0 à 30
%. 30
%? Ben, dans certains, pas tous. Okay. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une diversité de pratiques. Pour certaines choses, je pense que ce qui est commun, c'est le fait qu'ils présentent leur produit, tu sais, comme étant un produit sans frais, sans intérêt, une alternative au crédit. Donc, quand on présente un produit comme une alternative au crédit, traduction pour le consommateur, ben, il n'y a pas de frais. Si bien qu'il y a même des gens qui pensent que c'est des produits, c'est des programmes de fidélité.
Ouais.
Ouais. Donc, ouais, c'est à ce point-là. Alors, quand on a cette confusion-là à la base, ben, c'est quoi les conséquences que les gens peuvent consommer sans nécessairement prendre conscience que, ben, c'est du crédit? On pourrait, dans certains cas, accumuler ces plans de financement-là.
Donc, quand on,
ben, c'est ça.
C'est facile à oublier, là, un 3 pièces par là, un 17 par-ci, un 22 à quelque part d'autre sur 3 cartes différentes.
Ben,
ça peut facilement devenir mêlant. Là.
C'est facile de perdre le fil avec ça. Puis l'autre chose aussi, il y a certains frais qui sont des frais quand on n'a pas assez de fonds dans son compte. Donc, comme on l'a dit tantôt, le financement est relié directement au compte de chèque ou au compte de crédit. Certains consommateurs nous disent, bon, ben moi, je préfère justement qu'il soit relié au compte de chèque parce que, ben c'est pas à crédit, puis il y a aucun risque. Mais qu'est-ce qui se passera si jamais il n'y a pas assez de fonds, hein? On n'a pas de fonds de roulement dans son compte, puis bon, tout à coup, alors par erreur, le paiement est passé. Donc, on a des frais, donc les frais NSF, donc les frais qui sont facturés quand il n'y a pas assez de fonds. Et ces frais-là sont facturés aussi bien par la compagnie de financement que par la banque. Donc, on est un peu doublement facturé pour ces frais-là.
Ça ne devrait pas être marqué « il n'y a pas de frais », ça devrait être marqué « il n'y a pas un frais, il y en a deux ». OK, mais je comprends que c'est vraiment à surveiller. Pourtant, dans une étude que vous avez faite, vous avez demandé à des gens qui avaient utilisé Sezzle, Affirm et ces choses-là. Puis, tu sais, de manière générale, les gens avaient quand même une note positive. Là. Autant, dans le fond, la recherche s'est faite en Ontario puis au Québec. Puis, la moyenne que les gens ont donnée par rapport à leur expérience, c'était 7,3 fait que, sur 10. Là. C'est quand même bien. Qu'est-ce que ces gens-là, selon toi, ne voient pas qui pourrait être problématique avec ce mode de fonctionnement de paiement-là?
Ben, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire.
L'endettement, vraiment, principalement.
Ben, c'est ça, c'est que les programmes, en fait, ces produits de financement-là ne sont pas présentés de façon claire. Donc, ces produits sont présentés comme des alternatives au crédit. Alors, les gens pensent qu'il n'y a pas de frais du tout. Bon, même si le produit est relié à son compte, à sa carte de crédit, par exemple, ouais. OK? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, si on n'arrive pas à payer le montant complet, on va quand même être facturé. Mais donc, il y a des conséquences. Alors, l'enjeu ici, c'est que c'est l'information qui n'est pas claire pour le consommateur. Le consommateur ne sait pas que, bon, il pourrait y avoir des enjeux par rapport au dossier de crédit parce que, bon, même si l'inscription ne se fait pas dans certains cas au dossier de crédit par la compagnie, mais la compagnie envoie quand même le dossier, le compte en agence de recouvrement. Et dans ce cas-là, on sait que quand le compte est en agence de recouvrement, il y a des très fortes chances que que le dossier de crédit soit entaché. Et dans certains cas, ben, c'est dit aussi clairement dans les conditions d'utilisation que, ben, il est possible que le dossier de crédit soit entaché. Alors, on a ça. Puis d'un autre côté, quand la personne, il y a cette facilité d'accès. Donc, quand la personne veut accéder au produit, ce que les gens nous ont dit dans les groupes de discussion, bon, c'était un groupe au Québec, puis un groupe en Ontario.
OK, oui, la recherche dont je parlais.
Voici ça. C'est que c'est très facile. Hein? Puis dans certaines conditions d'utilisation, on utilise le terme « soft ». OK, donc c'est pas vraiment une enquête de crédit sérieuse. Hein?
Okay.
Alors, je pense que ce qu'on comprend par là aussi, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des informations qui sont reliées au compte chèque ou à la carte de crédit pour être en mesure de se payer plus tard. Parce que, je rappelle, le mécanisme, c'est que le remboursement se fait de façon par prélèvement automatique pour la plupart de ces compagnies-là. Okay? Et c'est très apprécié parce que c'est facile d'accès, parce que c'est facile de nous dire, regarde, tu peux acheter aujourd'hui puis payer plus tard, de reporter les paiements. On est dans un monde où est-ce qu'on veut tout avoir tout rapidement. Ben alors, je pense qu'ils ont trouvé la formule magique pour pouvoir attirer les gens.
Ben oui, définitivement. Puis les recours que les consommateurs pourraient avoir. Tu as parlé tantôt de rétrofacturation. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ben c'est ça. Je veux dire, bon, tout d'abord, c'est important de dire. Je vais répéter ce que vous avez dit tantôt, Marianne. C'est que les gens apprécient le produit, les produits, le BNPL, ils apprécient beaucoup. Mm-hmm. Le seul bémol qu'on a entendu, c'est que, bon, quand il y a un problème, mettons qu'un consommateur souhaite retourner le bien, c'est là que le problème apparaît. Donc là, ils ont du mal à retourner le bien, à se faire rembourser. Il y a des délais. Pourquoi ce problème-là? Parce qu'il faut comprendre que quand on a un BNPL, il y a deux contrats que le consommateur conclut. Il y a le contrat qui conclut avec la compagnie de financement, puis il y a le contrat qu'il conclut avec le commerçant. Donc, en cas d'annulation, qu'est-ce qui se passe? La compagnie de financement rembourse le commerçant directement. Il ne rembourse pas le consommateur. Alors, le consommateur doit s'adresser au commerçant s'il veut se faire payer, ce qui n'est pas toujours chose facile. La rétrofacturation, c'est un mécanisme qui est mis en place dans la loi sur la protection du consommateur pour pouvoir offrir un recours quand on fait un achat à distance. Donc à distance, c'est-à-dire on n'est pas en présence l'un de l'autre. Le consommateur et le commerçant ne sont pas en présence l'un de l'autre. C'était justement pour faciliter des situations comme ça. Or, dans un cas comme celui-là, le BNPL est utilisé au même titre qu'une carte de crédit, c'est-à-dire que quand on est sur, on est devant son ordinateur, on est prêt à acheter, donc on a des options. Alors, on peut payer par carte de crédit ou on peut payer par BNPL, même si après, on peut décider de rembourser avec sa carte de crédit. Okay. Alors, ce qui rend la chose un peu complexe.
OK.
Alors, qu'est-ce qui se passe? La rétrofacturation s'applique quand on utilise la carte de crédit. Mais le BNPL, est-ce une carte de crédit?
Non, ou on ne le sait pas?
Non, ce n'est pas une carte de crédit, okay. Parce que c'est un financement, ce n'est pas une carte de crédit.
Okay.
Par contre, pour le rembourser, on a le choix d'utiliser sa carte de crédit. C'est là que...
Ben, ça devient assez flou. Puis pour le consommateur, c'est encore plus complexe, là, surtout quand tout ce que tu voulais acheter, c'était une petite crème à 20$. Là.
C'est là que c'est toute la confusion.
Ça se peut que tu t'es bien rendu là.
C'est ça. Alors, les gens peuvent penser que parce qu'ils remboursent avec leur carte de crédit, ben, ils peuvent penser qu'ils ont droit à la rétrofacturation, mais c'est pas ça du tout. Alors, là, pour l'instant... je ne vais pas trop m'avancer, mais je veux dire, ce n'est pas très clair.
Fait que hein? Pour l'instant, ça sera surveillé. Ça ne veut pas dire que si on utilise le Buy Now, Pay Later, puis que c'est relié à une carte de crédit, qu'on peut nécessairement utiliser la rétrofacturation.
Ben, pour moi, ce n'est pas clair. Okay. Puis, ben, il faut comprendre quand même que c'est un phénomène qui est assez récent. T'sais, on sait que ben, ça a pris vraiment de l'ampleur durant la période de la COVID-19 ouais. et tout. Puis, ça a commencé ailleurs dans d'autres juridictions, mais au Québec, c'est vraiment récent. Puis, au niveau de l'application des lois, on ne sait pas comment est-ce que ça va être interprété. À l'heure actuelle, moi, c'est très difficile pour moi de conclure à l'effet que la rétrofacturation va pouvoir s'appliquer dans les cas des BNPL, à moins que le législateur décide d'étendre ce monde-là à tout achat à distance. Ben, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années.
C'est bon, ben, on en reparlera au besoin. Merci beaucoup, Clarisse, d'avoir été parmi nous. Merci aux auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à visiter le site de Options Consommateurs, donc options-consommateurs.org, à la section « Nous joindre ». Donc, passez une belle journée ou une belle soirée et à bientôt.